passer de vie à trépas et ressusciter, l'enfer ou le ciel. Les rites funéraires qui accompagnent le passage de la vie à la mort, de la résurrection et du jugement dernier ont été codifiés très tôt dans l'histoire de l'islam. Dans cette section, vous trouverez un récapitulatif des rites qui sont effectués à la mort d'un musulman. Il peut y avoir quelques variations par rapport à ce qui est écrit ici, selon les traditions. La représentation de la mort en islam est vue selon deux étapes. La première correspond à celle de la mort proprement dite et du temps passé dans la tombe. La seconde étape commence quand sonne la trompette, marquant le signal de la résurrection générale de tous les défunts, avec le jugement final et l'envoi au ciel ou en enfer. Les trois religions monothéistes partagent la même croyance dans la fin du monde et la fin des temps. À ce moment-là, se produira la résurrection des corps, le jugement dernier et l'envoi au paradis ou en enfer. En attendant ce jour-là, que se passe-t-il pour ceux qui se sont endormis du sommeil des morts? Sont-ils simplement morts? Ont-ils une certaine forme d'existence intermédiaire dans la tombe? Ont-ils un contact avec les vivants? Là où les Écritures saintes ne disent pas grand-chose, la tradition fournit des réponses à ces questions. Les différentes étapes sont ici présentées dans l'ordre où elles sont effectuées. Il peut y avoir de légères variantes selon les traditions auxquelles on se réfère. Premièrement, 40 jours avant le décès, une feuille d'arbre portant le nom de la personne qui doit mourir se détache et tombe sous le trône de Dieu. À ce signal, l'ange de la mort sait que le moment désigné est venu. Dieu détermine à la fois la durée de la vie d'un individu, sourate 6, 2, et le moment de la fin des temps. Quand un individu est mourant, l'ange de la mort, écoutez la section intitulée « Les différents anges », apparaît au futur défunt et lui demande qui il est. La personne peut essayer de s'échapper, mais la mort la rattrape toujours. Nakir et Munkir, les deux anges qui ont enregistré ses bonnes et mauvaises actions, lui montrent le bilan de sa vie. Deuxièmement, l'ange de la mort extrait l'âme du corps. La personne agonisante peut résister, mais cela ne sert à rien. Troisièmement, Satan essaie de détourner la personne de sa foi en lui offrant éventuellement une coupe d'eau froide pour la soulager de ses maux. Quatrièmement, la personne est accueillie dans la tombe. Elle peut quelquefois entrevoir soit les récompenses futures qui l'attendent au paradis, soit les maux de l'enfer selon le destin qui l'attend. La tombe est un endroit où règne l'obscurité et l'isolement. Cinquièmement, la personne peut alors tenter de faire le voyage qui la fera passer par les sept cieux pour voir ce qui l'attend. Celui qui est damné ne peut naturellement pas passer par les portes du ciel. Sixièmement, l'âme est réunie au corps dans la tombe. Septièmement, les anges de la mort, Nakir et Munkir, interroge la personne défunte. Le défunt, à ce stade déjà enterré par sa famille, reçoit l'ordre de s'asseoir. « Qui est ton Seigneur ?» lui demandent les deux anges. Les martyrs et les prophètes échappent à cette interrogation et vont directement au ciel. Huitièmement, la personne est en punition dans la tombe. Il ne s'agit pas là de l'ultime damnation en enfer. Tous ceux qui sont dans la tombe font au minimum l'expérience désagréable de subir l'oppression de la tombe, car tout le monde a fait au moins quelques actions dans sa vie qui méritent une punition. Neuvièmement, après habituellement 40 jours au maximum, la punition se termine. La personne reste alors dans la tombe inconsciente jusqu'au jour de la résurrection. Cette période s'appelle le barzakh. Sourate 23, 100. La barrière ou la cloison. Elle est comparable au sommeil. Les théologiens se sont demandé où se trouve le défunt pendant cette période où l'esprit et le corps sont ensemble, si le défunt a des contacts et s'il a conscience de ce qui se passe chez les vivants. Il n'y a pas de réponse unique et cohérente à cette question.